L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Gloire à Dieu. Êtes-vous content d'être en vie aujourd'hui? Moi, je suis content d'être là. Je suis content parce que le Seigneur est bon. Le Seigneur, il fait des grandes choses parmi nous et il n'a pas fini. Moi, c'est... En tout cas, ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur, puis je peux vous dire, ça arrive pas mal toujours souvent comme ça, mais j'étais spécialement de bonne humeur parce que je suis rempli d'expectatives. Je m'attends que le Seigneur il continue à travailler parmi nous. Amen? Et je sais que le Seigneur il a travaillé dans vos vies cette semaine, et je peux le ressentir. Savez-vous ça? Je peux ressentir ce que le Seigneur est en train de faire dans vos cœurs, dans vos vies, et on va goûter à plus de la présence de Dieu. Savez-vous, en Afrique, je suis jamais allé en Afrique, je suis allé en Haïti. Mon expérience en Haïti, c'était, je pense, similaire à ce qu'on peut vivre en Afrique, d'après les rapports que j'ai entendus. Les gens vont louer le Seigneur du matin jusqu'au soir. Les gens vont louer le Seigneur, ils vont danser, ils vont célébrer leur Dieu, ils vont se réjouir dans la présence de Dieu. Amen. C'est une chose qu'on peut voir des fois à la télévision, dans certains reportages ou dans des émissions chrétiennes. Et quand j'étais en Haïti, je me souviens, je me réveillais et j'entendais les femmes prier parce que je demeurais proche de l'église. Et puis j'entendais les femmes à partir de 3-4 heures le matin qui priaient et qui intercédaient pour plus de la présence de Dieu. Parfois, on entend les gens dire, bien, vous savez, s'il y a beaucoup de miracles en Afrique, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens pour avoir la médecine. Avez-vous déjà entendu ça? Les gens... vivent les miracles en Afrique, mais parce que justement, ils n'ont pas les moyens, donc sont obligés d'avoir un miracle. Donc, sont désespérés pour ce miracle-là. Et en partie, ça se peut que c'est vrai, là. C'est certain, ils ont moins de médecine, peut-être, ou moins, ils n'ont pas accès à la médecine comme nous avons accès. Mais je suis pas 100% d'accord avec ce raisonnement-là. Moi, je crois que ces gens-là, en grande majorité, ce sont des gens de louange et d'adoration. C'est des gens dans la liberté qui savent louer Dieu. Et ce matin, on va parler, on va expliquer un peu c'est quoi l'onction selon la parole de Dieu. Et vous allez comprendre une dimension de l'onction et comment vous pouvez entrer dans une dimension d'onction comme vous n'avez jamais vécu. Donc moi, ça me réjouit parce que je sais que vous êtes un peuple et ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, vous n'avez pas le cou raide. Quand Dieu vous parle, vous dites « Oui, Seigneur ». C'est merveilleux ça, n'est-ce pas? Moi, je me réjouis. On pourrait avoir une église avec des gens avec le cou raide. Savez-vous c'est quoi ça, un cou raide? Dieu dit, tourne. Puis on veut rien faire, on veut pas se soumettre. Mais ici, on a des gens qui veulent se soumettre à Dieu. Ça me réjouit. Moi, ça me réjouit ça. Je pourrais être un pasteur d'une église où tout le monde ne veut rien savoir de Dieu, où on veut juste la religion. Mais c'est pas notre cas. Ça me bénit ça. Amen. Ça me bénit, moi, les courriels qu'on reçoit, des vies changées, les vies transformées. Les gens qui disent, j'ai reçu ça. Même cette semaine, j'ai reçu un courriel concernant une personne qui s'est mise à prier dans une langue qu'elle ne connaissait même pas. Elle n'avait jamais entendu parler de cette chose. Puis là, mais qu'est-ce qui se passe? Je prie dans une langue que je connais pas. Mais là, la personne a dû expliquer, bien, ça ici, on comprend d'après les Écritures, tu es en train de prier en langue. Ah, c'est quoi ça, cette chose-là? N'est-ce pas merveilleux? Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu qui fait encore des miracles. Nous servons un Dieu qui est encore en train de relâcher son onction et qui est encore en train de faire des grandes choses. Moi, ça me réjouit. Parce que les miracles qu'on entend parler en Afrique, c'est pas juste pour l'Afrique. Grande nouvelle, on va le vivre et moi, je peux dire, on le reçoit aujourd'hui. Quand on pense à ça, il y a des gens qui se sont déplacés. On a des gens de l'Afrique dans cette église, on a des gens de l'Europe, on a des gens du Québec dans cette église, du Nouveau-Brunswick, peut-être l'Ontario. Mais savez-vous qu'est-ce qui est merveilleux? Si Dieu a attiré des gens des quatre coins du monde comme ça, là, c'est parce qu'on va vivre quelque chose dans la présence de Dieu. Et les gens ne sont pas ici juste pour avoir des bonnes réunions. Parce qu'on peut avoir des bonnes réunions. Et on peut rester comme ça, puis dire, ben, on a des bonnes réunions. Mais non, Dieu est en train de faire quelque chose. Et rappelez-vous de la parole du pasteur Brandon Whitten, quand il était ici. Il a dit que Dieu est en train de façonner cette église pour devenir un prototype pour d'autres églises dans la francophonie. Ce qui veut dire, des fois, Seigneur, il est en train de changer des choses en nous, il est en train de nous corriger. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Puisque nous sommes des fils et des filles de Dieu, Dieu nous reprend par amour parce qu'il nous aime. Ça, c'est merveilleux. Des fois, quand on est corrigé, la chair dit « Non, je veux rien savoir. » Mais dans notre esprit, on se réjouit parce qu'on le sait. Si le Seigneur me corrige, il ne corrige pas en m'envoyant le cancer, là, comme certains vont penser. Il nous corrige, il nous exhorte par sa parole. Et comme on entend la parole de Dieu, là, c'est à nous de dire « Oui, Seigneur, ou non. » Mais gloire à Dieu, dans cette église, on dit « Oui, ça me réjouit. » Gloire à Dieu. Donc, on va maintenant pencher nos têtes, on va prier, on va remettre cette portion au Seigneur. Père éternel, on vient devant toi et Seigneur Dieu, on te remercie pour ton désir pour nous. On te remercie Seigneur pour ta présence parmi nous. On te remercie pour ton onction. Merci Seigneur que tu es tout puissant. Merci Seigneur Dieu pour les choses que tu vas faire aujourd'hui parmi nous. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous inviter à tourner dans Ésaïe chapitre 10 et le verset 27. Ésaïe chapitre 10 et le verset 27. J'entends un moniteur en arrière ici, peut-être, je ne sais pas si j'entends des voix, là, mais j'entends quelque chose en arrière. Ésaïe 10, verset 27. Je vais vous lire avec des commentaires. Qu'est-ce que vous entendez quand je vais vous lire des choses qui ne sont pas dans votre Bible? C'est mes commentaires. Mais c'est pour vous aider à comprendre le contexte. En ce jour, en parlant de la grande tribulation, son fardeau, parlant de l'Antichrist, sera ôté de dessus ton épaule, l'épaule d'Israël ici, et son joug de dessus ton cou, et la graisse, en hébreu, on peut voir ici, c'est le mot shemen, qui veut dire l'huile d'onction, fera éclater ou détruira le joug. L'onction détruira le joug. Un joug, c'est quelque chose qui nous écrase. On peut être pris dans une situation sous une domination quelconque, esclave. Mais quand l'onction du Saint-Esprit brise ou détruit, littéralement, détruit le joug, on découvre une liberté. Donc, simplement, ce qu'est l'onction, si les gens se posent la question, mais c'est quoi justement? On entend parler de l'onction de Dieu. Peut-être, j'aime le Seigneur, je connais certaines choses sur Dieu, j'ai même une relation avec Dieu, mais l'onction, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et savez-vous, c'est pas un problème si c'est nouveau. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que là, vous êtes à cette découverte. Vous arrivez à un endroit où vous faites découvrir des nouvelles choses dans votre relation avec Dieu. L'onction, c'est simplement la présence de Dieu libératrice. La présence de Dieu libératrice. Amen? Et qu'est-ce qui me réjouit? Il y a quelques semaines, le pasteur Jérémie a prêché sur l'oppression. Souvent, l'ennemi vient et puis veut opprimer les gens, les écraser, et c'est une lourdeur de l'ennemi qui vient nous écraser. Vous vous rappelez de cette parole-là? Et on était encouragé, exhorté à combattre le bon combat de la foi. Mais savez-vous, il y a une autre sorte de lourdeur qu'on peut vivre, et c'est une lourdeur de Dieu. J'aime mieux ça en anglais, c'est « weighty presence », la présence, comment dire, et pas écrasante, mais ressentie, si on veut. On ressent littéralement la présence de Dieu, et c'est merveilleux, parce que c'est une présence de guérison, c'est une présence de bénédiction. C'est une présence qui nous libère de tous les jougs, de toutes sortes de dominations de l'ennemi. Gloire à Dieu pour ça. Donc, c'est une chose de réaliser que l'ennemi nous aime pas et que l'ennemi veut faire des choses contre nous, mais c'est une autre chose de comprendre que nous avons littéralement l'autorité de changer le climat spirituel dans notre vie. Parce que l'ennemi, il veut arriver avec des mensonges, et là, aujourd'hui, je vais vous donner un défi. À chaque fois que l'ennemi vient vous écraser ou vous faire croire des choses, des mensonges, je veux vraiment vous encourager à louer le Seigneur. Vous allez voir pourquoi. Vraiment, l'ennemi vient vous dire. Moi, l'ennemi m'a dit des choses ridicules. J'ai partagé ça à l'équipe pastorale hier soir et je ne vous partagerai même pas parce que c'est trop stupide. Mais le diable me faisait croire des choses. Juste, c'était tellement stupide quand il m'a soufflé ça à l'oreille, j'ai même commencé à rire. J'ai dit, ben voyons donc, comme si je ferais ça. Comme si c'était une vraie porte. de Dieu, ça. Et c'était tellement évident. Mais l'ennemi, lui, il vient compter des mensonges pour nous écraser. Mais là, le moment qu'on commence à louer le Seigneur, et on dit, oh, gloire à Dieu, la pensée, ah, tu vas perdre ton emploi. Merci, Seigneur Dieu, parce que j'ai un emploi béni. Ah, ben là, tes enfants s'en vont pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, merci, Seigneur, parce que mes enfants s'en vont dans la bonne direction avec toi. Oh, mais ton corps est malade, tu vas aller de pire en pire. Oh, merci Seigneur Dieu, parce que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Alléluia. Oh, mais regarde ton compte de banque, ça se vide de plus en plus, tu t'en vas dans pauvreté profonde. Merci Seigneur Dieu, parce que tous mes besoins sont rencontrés selon ta richesse et avec gloire. Vous savez, à force d'entendre ça, le diable va se tanner. Le diable là, va dire... Coudonc, ça marche pas cette affaire-là. J'essaie de le décourager, mais à chaque fois, il loue le Seigneur. Mais là, je vais aller déranger quelqu'un d'autre. C'est ça qui va se passer, justement. Mais c'est à nous, vraiment, de livrer ce combat-là. Aujourd'hui, en parlant de l'onction, je veux vous présenter quelqu'un qui est loin. Son nom, c'est Jésus. Avez-vous déjà entendu parler de Jésus? Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter à tourner en certains versets, dans Luc chapitre 4, verset 18. Jésus, chapitre 4. On a des amis à l'Internet. Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit, donc? Ben, on invente un nouveau livre à l'Église de la Victoire. Luc, chapitre 4, verset 18. Et s'il y a des amis à l'Internet, sur l'Internet, à la radio, qui ne connaissent pas Jésus, ben, moi, je suis super content d'avoir le privilège aujourd'hui de vous présenter ce Jésus merveilleux. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 4, en parlant de Jésus, au verset 18. Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Dites « sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous serez de plus en plus pauvres. Non, c'est pas ça. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une belle onction que le Seigneur Jésus avait et que nous avons à cause de lui, parce que nous sommes en Christ. Acte 10, verset 38. Acte 10, maintenant. Verset 38. J'aime ce verset-là. Je trouve ça merveilleux. Acte 10, chapitre 38. Vous savez, dans Acte chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Je vais le relire parce que ça va déranger l'ennemi. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Je veux vous faire remarquer que Jésus venait de Nazareth. Et vous allez voir dans quelques instants pourquoi je vous souligne ce fait-là. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux, dites tous ceux, qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. On sait, tu es avec lui, Jésus est à loin, nous venons de le voir. Imaginez, des fois on peut rêver et dire, « Ah, si seulement j'avais vécu dans le temps de Jésus, j'aurais aimé ça, moi, recevoir un miracle du Seigneur Jésus. » Avez-vous déjà pensé à ça? Peut-être que vous êtes là et dites, « Ah, moi, là, si j'avais été dans le temps de Jésus, surtout quand on est jeune, on écoute le film Jésus Nazareth, et on voit ça, puis on dit, « Ah, j'aurais aimé ça, voir les miracles que le Seigneur Jésus avait fait. » N'est-ce pas? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous? Moi, en tout cas, je suis comme ça. Peut-être que je suis encore bizarre, là, qu'est-ce que vous voulez. Mais en tout cas, on dit, « Moi, là, j'aurais voulu voir ces miracles-là, et j'aurais voulu même recevoir un miracle de Jésus lui-même. » Hein, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui voulait recevoir de la main du Seigneur Jésus. Imaginez, Jésus qui a ressuscité les morts, ce Jésus qui a guéri les aveugles, qui a guéri les sourds, qui a marché sur l'eau, on se dirait, quelqu'un comme Jésus mériterait mon attention, n'est-ce pas? Je sais pas, moi je trouve que c'est intéressant. Si Jésus avait une croisade d'évangélisation, Jésus-Christ de Nazareth, à l'aréna, à telle heure, je serais là moi, si j'avais été dans ce temps-là, dans le temps de Jésus, comprenez? Je me serais déplacé pour entendre Jésus-Christ de Nazareth prêcher. Amen. Bon. Mais, c'est pas tout le monde qui était comme ça. Là, on va voir Jésus, le oint de l'Éternel, celui qui a cette onction qui brise, qui détruit les jougs. Et là, il s'en allait chez eux, à Nazareth. Et voyez comment il était reçu. On va aller ensemble dans Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6, et le verset 1. Et on va aller jusqu'au verset 6. Donc, Marc, chapitre 6, verset 1 à 6. Ici, on voit Jésus le loin dans sa patrie. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. On sait c'est Nazareth, selon Matthieu 2, 23. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés. Dites étonnés. Et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par sa main? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Donc, on a des gens, présentement, dans ce texte, qui étaient étonnés de la sagesse du Seigneur Jésus. Ils ne remettaient pas en question ses miracles, ses sagesses, mais étaient juste étonnés parce que Jésus parlait, enseignait ici, puis disait, « Mais comment ça, ce Jésus-là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est juste un charpentier. » C'est juste le Jésus qu'on a toujours connu. Jésus a habité là, on sait jusqu'à l'âge de 30 ans, il était un régulier du village. Hein? Et puis là, les gens étaient étonnés de le voir comme ça. Et, je continue le texte, il était pour eux une occasion de chute. En anglais, c'est dit « offended », il était offensé, une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et là, remarquez le cinquième verset. Imaginez, Jésus qui avait fait plein de miracles, là. Jésus, le oint de l'Éternel. On dit ça ici, le concernant, au verset 5. « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignant. Ici, Jésus ne pouvait pas faire grand-chose. Souvent, on lit ces textes-là et on pense, ou des fois on a imaginé, que Jésus a voulu prier pour des gens, mais ça ne marche pas parce qu'il y avait trop d'incrédules. Les gens ne croyaient pas. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Savez-vous pourquoi Jésus ne pouvait pas faire grand miracle dans cette place-là, sauf guérir quelques personnes? Bien, c'est parce que les gens n'osaient pas s'approcher de Jésus. Les malades n'osaient pas aller vers ce Jésus parce que Jésus, c'était juste un charpentier. Bien, c'est qui? C'est juste Jésus. Ça fait 30 ans qu'on le connaît. Hein, c'est le fils de Marie. On connaît ses frères et ses sœurs. C'est un nobody, ce Jésus-là. Imaginez, à l'époque, les gens pensaient comme ça. Et juste certaines personnes ont eu l'audace et le courage de dire, « Moi, là, je suis assez malade, là, je vais aller le voir. » Ce Jésus-là. Et c'est pour ça que ça dit, il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Puis il était étonné par leur incrédulité. Il était étonné. Il était vraiment étonné, surpris. Une des choses que je veux souligner ce matin, et le Seigneur veut souligner et faire éclater dans vos cœurs là, cette vérité, comme des feux d'artifice, notre disposition, dites disposition, détermine notre réception. La façon que nous sommes disposés envers le Seigneur dans une réunion, pendant le temps de l'adoration, pendant la louange, notre disposition va déterminer la mesure que nous allons recevoir de la main de Dieu. Savez-vous ça? C'est important ce que je vous dis là ce matin. Dans une église, dans une réunion, une assemblée, on peut avoir une personne qui est là, qui reçoit son miracle de Dieu. Elle est disposée, elle est dans la foi, elle est dans l'attente, et puis elle est positionnée pour recevoir du Seigneur son miracle. Il y a une personne comme ça. De l'autre côté, on a une personne qui n'est pas disposée, mais qui est là et qui vit toutes sortes de choses charnelles. Il y avait deux personnes dans la même réunion, mais une personne sort bénie avec son miracle, une autre personne quitte avec toutes sortes d'autres choses charnelles. Il y a deux types de personnes. Et je me réjouis que dans cette église, dans cette assemblée, nous sommes tous ceux qui se positionnent dans une attente et dans la foi. Imaginez, Jésus-Christ de Nazareth n'était pas assez important pour certaines personnes. Il n'était pas assez grand. Et pour nous, des fois, on dit, ah ben si j'étais là dans le temps de Jésus, ça aurait été facile pour moi de recevoir mon miracle, si seulement j'avais été dans ce temps-là. Mais même pas. Même dans ce temps-là, il y avait des gens qui ne croyaient pas le Seigneur Jésus. Amen. Donc, ne pensez pas que c'était plus facile dans ce temps-là. Parce que des fois, on devait surmonter l'opinion des gens et réaliser ceci. En plus, vous savez, les frères et les sœurs du Seigneur Jésus ne croyaient même pas en lui. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils commencent à croire. Réalisez ça. On peut vivre avec Jésus pendant 30 ans, le voir, il n'a jamais commis une seule faute et ils n'ont même pas remarqué ça, eux. Ça c'est même pas comme, ils n'ont même pas enregistré, ah wow, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Mais non, c'est Jésus. Et on peut avoir ce manque de révérence pour le Seigneur. Ici, on le voit, hein? Eux, ils ont passé à côté. Dans Luc 19, 44, Jésus a dit à Israël, vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation. Vous n'avez pas reconnu. Et moi, je peux vous dire, nous allons reconnaître le jour, le temps de sa visitation. Amen. Nous ne passerons pas à côté parce qu'on se positionne dans la foi. La foi des gens dans cette assemblée est relâchée pour voir vraiment ce que le Seigneur veut faire et nous ne passerons pas à côté comme le peuple d'Israël a manqué le but. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus le oint dans sa patrie. On voit toutes sortes de choses là. On l'a rejeté. Mais là, dans Jean 20, verset 22, je vous lis très rapidement. Ici, on voit après la croix, après l'œuvre de la croix, ici, on voit le Seigneur Jésus qui parle aux croyants. Mais en fait, on voit plutôt le rapport de ce que Jésus a fait en parlant avec ces croyants-là. C'est dit dans Jean 20, verset 22, et c'est dans la version Darby. C'est la bonne traduction ici. Il est écrit, « Il souffla, en parlant des disciples, il souffla en eux. » Et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Nous savons à ce moment-là que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Selon Jean 20, verset 22. Il souffla en eux, il reçut le Saint-Esprit. Il dit, recevez l'Esprit Saint. Ensuite, Jésus parle aux croyants, aux enfants de Dieu. Il parle à ces croyants-là. Et puis, il leur donne un commandement. Dites commandement. Ici, là, on voit que c'était vraiment important pour le Seigneur Jésus. On va aller ensemble dans Actes, chapitre 1, et on va aller au verset 4 à 5. Vous savez, on est dans une lecture présentement dans le livre des Actes, puis c'est merveilleux, on lit un chapitre par jour en Église, et puis on grandit dans ses voies à ce niveau-là, dans notre lecture et dans notre fidélité, dans la lecture de la parole de Dieu. Dans Actes, chapitre 1, verset 4, ici, je vais vous lire un texte, encore une fois, dans la version Darby. Et les théologiens supposent que lorsque le Seigneur Jésus s'est adressé aux croyants, il y avait 500 fidèles. En fait, juste vous lire dans 1 Corinthiens 15, 6, ça dit, « Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. » 500 frères à la fois. Et ça, le Seigneur Jésus, on comprend, il était déjà ressuscité. Donc, après sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus s'est présenté devant 500 témoins. Et là, Jésus, il donne une parole. Dans Actes, chapitre 1, verset 4, en parlant de Jésus, « Et étant assemblé avec eux, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem. » Dans d'autres versions, ça dit d'autres choses, mais le vrai mot, c'est le mot « commanda » de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. « Laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint dans peu de jours. » Ici, on voit le Seigneur Jésus, il donne un commandement. Et lorsqu'on va dans le grec à ce niveau-là, avec le mot « commanda », c'est un terme en fait qui se réfère, c'est comme un langage de militaire. C'est un langage, c'est un commandement, le commandant, il donne son commandement. Il donne son commandement ici. Donc, ce n'est pas une option si ça vous tente. Et là, ensuite, dans Actes, chapitre 1, verset 8, dans la version Darby, c'est dit, « Mais vous recevrez de là la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Remarquez, si vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous, « et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Donc, les croyants étaient commandés par le Seigneur. Vous devez être à Jérusalem et recevoir cette puissance qui vient d'en haut. Est-ce que vous suivez jusqu'à présent? C'est un commandement du Seigneur. Et il y en a certainement qui ont reçu plus tard cette expérience, et on voit dans la vie et le ministère de l'apôtre Paul, lorsqu'il prêchait, ce n'était pas avec des expressions, un discours persuasif, mais c'était avec puissance. Il y avait un ministère puissant. Amen, dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Là, on peut dire, le Seigneur Jésus, celui qui a fait des miracles, ce Jésus, ce même Jésus qui a marché sur l'eau, qui a fait toutes sortes de choses glorieuses, il a ressuscité les morts. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Et là, Jésus, le ressuscité d'entre les morts, il parle une compagnie de 500 personnes et puis il leur donne le commandement, vous devez être revêtus de cette puissance surnaturelle. Il dit, il leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Vous devez attendre la promesse du Père. Imaginez combien de personnes ont écouté ce que le Seigneur Jésus leur avait dit. Quand on pense à ça, là, on réalise que dans le temps de Jésus, il y avait beaucoup de personnes avec le cou raide. Jésus lui-même leur donne un commandement et eux disaient, il y en a plein qui n'ont pas écouté. Vous allez voir ici. Dans Actes chapitre 1, versets 12 à 15, on va aller là, dans Actes chapitre 1, versets 12 à 15. Combien sont à Jérusalem ici? C'est-à-dire, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Vous connaissez ça, cette histoire-là, certainement. 120 étaient là. 120 étaient au poste. Mais il y en avait 500. Qui avait entendu parler de ce commandement-là, selon les théologiens. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, devant cette réalité? Une des choses, moi, qu'est-ce que ça a vraiment souligné dans mon cœur, c'est qu'il y en a toujours ceux qui ont soif de Jésus. Il y en a qui sont là, quand Jésus parle, ils disent, je m'accroche à ses paroles, je veux être là, je veux être exactement là où le Seigneur m'a dit d'être. Je veux vraiment marcher dans l'obéissance. Et il y en a d'autres, qui ne sont même pas au poste. C'est quelque chose, hein, qu'on pense à ça. Waouh, on dit, si j'avais existé dans ce temps-là, si j'avais vécu dans ce temps-là, moi, j'aurais voulu être avec les apôtres, n'est-ce pas, les croyants. Mais au verset 14, j'aime beaucoup qu'est-ce qu'on voit ici. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Commun accord, ça, c'est une clé essentielle pour vivre ce que le Seigneur veut faire parmi nous, nous devons tous être dans un commun accord. Ce qui veut dire, nos cœurs sont unis dans la foi. Amen. Amen. On doit être unis. L'ennemi va essayer de briser l'unité pour pas qu'on vive le restant des choses que Dieu veut faire. Mais on est assez mature et assez intelligent qu'on connaît ses façons. Vous êtes intelligent, n'est-ce pas? Dans la Bible, ça parle des stupides, vous en rappelez? J'ai déjà lu ça, des versets dans la Bible. C'est écrit, là, il y a des stupides parmi nous, des fois, mais pas à EVQ. Amen! Parce que nous sommes renouvelés par la parole de Dieu. Amen! Gloire à Dieu! Il y en a qui sont d'accord. Amen! On est intelligent, on sait que le diable est détestable, puis il nous aura pas. On va tous être dans un accord, et on va prier ensemble. Dans Actes chapitre 2, maintenant, le texte classique. Nous verrons maintenant ensemble le résultat de ce commandement. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte. En passant, le mot Pentecôte n'appartient pas aux églises de la Pentecôte. Savez-vous ça? Ne fermez pas votre cerveau au nom de Jésus. Continuons à lire la Bible. Ça n'appartient pas à une dénomination, le mot Pentecôte. Et l'expérience de la Pentecôte n'appartient pas à une dénomination, mais à Dieu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dites ensemble, dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il y en a des gens qui ont dit, ah, ben ça, c'était juste pour l'Église primitive. Bien, vous direz ça à mon ami James Ariac, qui l'a vécu à Pond Inlet dans l'Arctique canadien. Vous vous rappelez, en 2007, on avait fait une réunion ici, dans l'auditorium, ça s'appelait Québec dans la gloire. On avait fait venir James Ariac, qui habite dans l'Arctique canadien, et dans sa petite église, je ne sais pas combien, peut-être une cinquantaine, c'était des gens de foi dans la prière, et là, tout d'un coup, et c'était surnaturel, on a entendu un vent. Et puis, là, au début, les gens disaient, ben, c'est peut-être un jet, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est impossible d'avoir un jet dans l'Arctique, parce que les jets passent pas là. C'est pas l'endroit où les jets passent. Et puis là, ils ont même essayé d'éteindre l'enregistrement parce qu'ils entendaient un son. Peut-être ça vient de l'enregistrement. Ils ont tout arrêté et le son continuait. Et l'enregistreuse qui était éteinte a enregistré l'événement. C'est surnaturel de Dieu. Si votre Dieu, c'est un Dieu juste dans le passé et dans le livre des Actes, mais c'est ça, c'est juste de l'histoire. Mais lisez l'histoire. Nous, on veut l'expérience. Amen. Oui, c'est historique, mais c'est pas réservé au passé. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Il y en a qui pensent que c'est un petit briquet sur leur tête. On voit ça, des illustrations, des gens comme ça. Un petit bic. Mais la flamme de feu, là, c'était... C'était la présence manifeste de Dieu. C'est beaucoup plus qu'un petit briquet. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça venait pas de la chair, mais c'était surnaturel. Ça tombait sur eux et là, tout d'un coup, les gens se mettaient à prier en langue. Amen. Gloire à Dieu. C'est encore pour aujourd'hui, ça. Mais, il y a des réactions différentes face à la présence de Dieu. La présence de Dieu peut être une place, il va toujours avoir deux types de réactions, selon la parole de Dieu. Dans Actes 2:12, ça nous dit, ils étaient tous dans l'étonnement, en parlant des gens, des nations qui étaient là. Dans l'étonnement, il y a des gens qui sont juste étonnés. Ils sont étonnés. Dans Actes 2:13, le prochain verset, ça dit, mais d'autres se moquaient. Ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous avez déjà entendu dire, notre attitude détermine notre altitude avec Dieu. Notre attitude détermine notre altitude avec Dieu. Vous l'avez entendu dire souvent. Mais une des choses qu'on doit comprendre ici, c'est qu'il y a des gens qui sont étonnés devant les choses de Dieu. Il y en a d'autres qui se moquent des choses de Dieu. Mais aujourd'hui, si vous pensez, est-ce que je me suis déjà moqué des choses de Dieu, mais c'était peut-être par ignorance. C'est peut-être juste par ignorance. Peut-être vous aviez été entouré par des gens incrédules. Et l'incrédulité qu'ils portaient et ce manteau de religion, ils l'ont placé sur vos épaules. C'est peut-être ça qui s'est passé. Mais aujourd'hui, à cause de l'onction détruit le joug, vous faites enlever ce vieux manteau-là de la religion. Et savez-vous, je vais même le faire. Comme un signe prophétique. Vous faites enlever votre manteau de la religion et être pur et blanc. Amen. Mais savez-vous, c'est notre décision. Si on marche toute notre vie avec un vieux manteau religieux, on va vivre notre religion. Mais moi, là, je voudrais faire partie de ceux qui faisaient partie des 120 réunis. Je trouve leur expérience était pas mal plus intéressante que ceux qui étaient à l'extérieur, qui se moquaient. Je ne suis pas un moqueur, moi. Moi, je suis quelqu'un qui reçoit de Dieu. Écoutez bien, même dans l'Église primitive, des fois, il y a des gens qui disent, « Ah ben, moi, si j'avais habité dans le temps de l'apôtre Paul, là, on aurait vécu les choses comme il faut, là. Puis là, on aurait vraiment vécu la présence de Dieu. Mais là, ça fait trop longtemps. Puis regarde l'Église, là, c'est détourné les voies de Dieu, blablabla. Il y a plein de choses. » Mais même dans l'Église primitive, l'apôtre Paul avait des défis. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 21. Ici, l'apôtre Paul est obligé de dire ça aux chrétiens, là. C'est aux chrétiens qui dit ça. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est obligé de dire à ses croyants, des chrétiens là, qui ont vu des miracles, ils ont vu beaucoup plus de choses que nous, et même avec eux, l'esprit charnel veut faire obstacle au Saint-Esprit par le doute, par les paroles. L'ennemi se sert de nos paroles pour détruire les choses de Dieu. Donc, par le doute, par des raisonnements, des jugements, la moquerie, même l'Église primitive qui avait vu plein de miracles, même eux étaient charnels. Imaginez, nous, 2000 ans plus tard, pensez-vous qu'on a moins de défis? Combien d'entre vous, vous êtes vivants ce matin? Alléluia! Ça m'encourage, gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 19, dans français courant, ça dit « Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit » ou au verset 20, « Ne méprisez pas les messages inspirés » ou « Ne méprisez pas les prophéties ». Des fois, on entend une parole prophétique et des fois, c'est pour nous et des fois, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas faire la moquerie à ce niveau-là. La parole de Dieu nous dit « Ne méprisez pas les messages inspirés », mais au verset 21, « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon » pour vous, retenez ce qui est bon. Et dans la parole de vie, verset 19, c'est dit, n'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir. Si l'apôtre Paul, il disait ça à l'Église primitive, n'empêchez pas le Saint-Esprit d'agir, c'est parce que c'était possible aux croyants d'empêcher le Saint-Esprit d'agir. Wow! Hey, c'est une révélation. J'ai l'autorité soit de célébrer le Seigneur et de vivre la présence, l'onction tangible du Saint-Esprit, ou je peux dire, Seigneur, non. Et là, quand on dit non, le Seigneur dit, correct, je vais aller à l'autre église, à deux rues, là, eux, ils me veulent. Et puis là, il va là-bas. Mais, nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas l'envoyer, n'est-ce pas? On veut qu'il soit ici. Gloire à Dieu. Mais là, vous dites, oui, mais Dieu est partout. Dieu est partout. Dieu est grand, souverain, omniprésent, c'est sûr. Mais il y a des endroits où la manifestation de la présence de Dieu vient, où on ressent littéralement la présence de Dieu. C'est comme un manteau. Des fois, les gens disent, oh, je sens full frisson. Qu'est-ce qui se passe? C'est la présence de Dieu. Mais c'est pas juste ça, la présence de Dieu. Parce que ces frissons-là brisent les chaînes, les détruisent. Et là, les gens sortent libres. Ah, oh, c'est merveilleux. Moi, je me souviens, pendant un temps dans ma vie chrétienne, j'avais mis de côté le Saint-Esprit. Puis j'ai vécu ma vie chrétienne intellectuellement. Mais là, j'étais rendu desséché. Puis là, j'étais allé voir ma sœur en Australie. Et puis, elle fréquentait une belle église, loin du Saint-Esprit. J'ai juste mis ma main sur les portes de l'église. J'ai ouvert la porte, puis j'ai senti ça venir sur moi, la présence du Saint-Esprit. Et là, j'ai réalisé, mon Dieu, j'étais desséché. Je savais même pas à quel point. J'étais desséché. J'avais été contenté par la religion, par les choses intellectuelles. Vous savez, Dieu, il travaille dans notre intellect. Il nous dit d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Dieu va nous révéler des choses dans notre esprit, puis il va se servir de notre cerveau. On laisse pas notre tête à la porte quand on est sauvé. Mais ça se passe pas juste dans la tête. Ça se passe dans notre esprit, dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Ici, c'est dit, n'empêchez pas le Saint-Esprit d'agir. Parce que la chair est prédisposée. C'est facile. La chair est toujours guidée vers la moquerie et la limitation du Saint-Esprit. Ça, c'est la chair. Mais gloire à Dieu, la chair ne va pas contrôler le Saint-Esprit dans cette église. Amen. Puis si vous avez dit, ben moi, là, je suis coupable d'avoir fait ça dans ma vie, aujourd'hui, on va juste dire, Seigneur, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde, on va le dire. Seigneur, je te demande pardon d'avoir limité ton Saint-Esprit dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, on est pardonné. Là, je continue. On vient de voir ici, il y avait des réactions humaines différentes. Et on vient de décider ensemble, notre réaction va être la réaction de la foi, la réaction spirituelle. Une des façons qu'on peut vivre l'onction de Dieu seul à la maison. OK? Vous faites à la maison, vous pouvez mettre un CD de louange, vous pouvez louer le Seigneur, et là, ressentir la présence de Dieu venir sur vous, et là, vous pouvez vivre des libertés, des guérisons, des délivrances chez vous à la maison. Mais lorsque nous sommes ensemble dans l'Église, il y a une onction corporative qui est relâchée, parce que nous portons tous un manteau d'onction, et ensemble, cette onction fait un miracle. Quand on vient dans l'Assemblée des fidèles, c'est ça qui se passe. On vient ensemble et l'onction qui est sur chacun de nous, là, est relâchée et là, on baigne littéralement dans une rivière de son onction. C'est pour ça que c'est important d'être là à l'Église. Et là, on est comme dans les vagues de son Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il y a plus de miracles souvent, là, qu'il y a, plus de miracles et plus de visitations, si on veut, dans l'Assemblée. Parce que de toute façon, c'est biblique, c'est dans l'Assemblée des fidèles, le Seigneur est là. Mais comme on est là et on loue le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans le surnaturel. Donc, il y a un accent sur la louange, une chose importante. Et comme vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 22, verset 3, « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ou de ton peuple. » On sait, on le dit souvent, Dieu habite la louange de son peuple. Mais on peut se poser la question, je me suis déjà posé la question, « Mais Seigneur, pourquoi as-tu besoin qu'on te loue? Pourquoi as-tu besoin, Seigneur, qu'on lève les bras et qu'on te dise comment on t'aime? Est-ce que Dieu est insécure? » Est-ce qu'il y a un problème d'estime? Il n'y a personne qui me donne des compliments. Je suis tout seul au ciel. Ils sont tous là sur la terre. J'aimerais ça que le monde m'encourage un peu. Dieu n'a pas besoin d'encouragement. Dieu n'a pas de problème d'estime. Savez-vous ça? Il n'y a pas besoin que vous lui disiez « Ah, Seigneur, t'es beau, t'es merveilleux. » Il n'y a pas besoin de ça, lui. Il est autosuffisant, Dieu. Je sais que j'arrange du monde, là, peut-être. C'est qui a besoin de la louange? J'ai donné la réponse tantôt. Notre louange et adoration s'élèvent vers Dieu pour nous. Ça, c'est une clé. Si vous comprenez ça, vous allez voir pourquoi Dieu a promis qu'il était pour habiter la louange de son peuple. Comme on loue le Seigneur et on est en train de dire comment Dieu est grand et bon, qu'est-ce qui se passe en dedans de vous, dans votre esprit? Vous êtes en train d'être édifié et là, votre foi commence à être relâchée pour vivre les choses de Dieu. Et Dieu se fait un plaisir de venir vous visiter. Quand on lit dans le psaume 145, verset 1 à 3, ça dit « Tous les jours de ma vie, je vais te servir. Tous les jours de ma vie, je vais te louer. » Pensez-vous que Dieu a besoin de savoir ça? « Ah, ben je pensais que tu étais pour me lâcher, là. Merci, tu me sécurises. » Non, c'est nous, on a besoin de le dire. Non, Seigneur, tous les jours de ma vie, je vais te louer et t'adorer. Parce que Joel Spinks, là, il vient de s'engager là, à ce moment-là. Je viens de m'engager et je viens de louer. Ça, c'est super important. Une des choses concernant la louange, en fait, il y a trois choses que je veux vous laisser savoir. La louange magnifie la grandeur de Dieu dans nos combats. Vous avez un combat dans votre vie, la clé pour vous, c'est la louange. Vous avez besoin de louer Dieu. La louange magnifie la grandeur de Dieu dans nos combats. C'est pour ça, si on a des combats, on a des défis, des choses qui ne vont pas bien dans nos vies, c'est alors qu'on a besoin de louer le Seigneur et l'exalter. Et là, on est en train de magnifier dans nos cœurs le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Vous pourrez lire les psaumes, c'est ça qu'on retrouve constamment. La louange garantit la présence manifeste de Dieu qui ensuite nous libère de tous les jougs. La louange garantit la présence manifeste de Dieu. Avez-vous besoin de la présence de Dieu dans vos vies? Ben, la clé, c'est louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Il y a des gens qui ont vécu des choses horrifiques. Et dans ces moments-là, j'ai dit à une personne en particulier, j'ai dit, écoute, la seule chose que je peux te dire en ce moment, loue le Seigneur. Et des gens pourraient m'entendre à l'époque et puis dire, mais là, c'est un cliché, loue le Seigneur. Mais non, c'était vraiment la clé pour elle, pour cette personne-là. Et elle s'est mise à louer le Seigneur et le Seigneur a brisé, détruit les jougs dans sa vie. Et là, les gens, les spécialistes dans la situation disaient, mais ça va toi? Ta vie est en ruine et t'es contente? Qu'est-ce qui se passe? C'est la présence de Dieu. Elle était portée dans la présence de Dieu, dans des moments horrifiques. Mais dans la présence de Dieu, elle était enrobée de cette onction. Elle pouvait passer à travers. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Une autre chose. On a vu, la louange magnifie la grandeur de Dieu dans nos combats. La louange garantit la présence manifeste de Dieu qui nous libère de tous les jougs. Troisième chose, Satan déteste ça. Satan ne peut pas supporter la louange. C'est pour ça, quand nous sommes dans une église et quand tout le monde, quand vos bouches sont remplies de proclamations de la grandeur de Dieu, Satan est chassé de parmi nous. S'il y a une oppression, un dimanche matin, vous arrivez à l'église et là, vous sentez qu'il y a une lourdeur dans l'esprit. Savez-vous, Dieu nous donne la sensibilité. Il y a des dimanches où on sent la présence de Dieu, c'est super facile. Il y a d'autres temps, là, on sent, oh, c'est lourd. La personne qui connaît pas ces choses-là peut dire, oh, c'est lourd, oh, je m'écrase. Je trouve ça dur. Oh, c'est dur, la vie chrétienne. OK, ça, c'est une réaction. Ou l'autre personne peut dire, oh, le diable veut pas que je rentre dedans. L'ennemi est contre moi ce matin et l'ennemi est contre les choses que Dieu veut faire ici ce matin. Oh, oh! Ben, gloire à Dieu! Alléluia! Mais ça me tente pas de louer. Pff, on s'en fout, ça! Ça te tente, ça n'a aucunement rapport. Quand le commandant dit, fais quelque chose, on le fait. Donc, savez-vous, j'ai entendu le témoignage. John Osteen, le père de Joel Osteen, était dans l'ascenseur. Il était là, dans un ascenseur, et puis, il y avait un monsieur qui venait de rentrer. Il y avait deux petites madames âgées. Un monsieur, frustré de la vie, se mettait à sacrer et blasphémer le nom de Dieu. Les deux petites madames étaient là, on fait sortir d'ici, nous autres, là. Mais là, le pasteur Osteen était là, well, praise the Lord, thank you, Jesus. Puis là, il y en a un qui sac, là. Well, praise the Lord, thank you, Jesus. Là, les deux petites madames, on veut vraiment sortir d'ici, là. On veut vraiment sortir d'ici. Savez-vous la bonne nouvelle? Là, le méchant, là, qui sacrait, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je veux donner le temps égal à Dieu. Tu es en train de magnifier le diable, moi je veux magnifier le nom du Seigneur Jésus. Amen. Well, praise the Lord. On annule les choses que l'ennemi veut faire. C'est que l'ennemi, il veut écraser, mais on ne se laissera jamais intimider par le diable, parce que gloire à Dieu, on va de l'avant, et moi je suis convaincu de ça. Amen. Là, Satan ne peut pas supporter la louange, alors ce que je vais faire, je vais louer Dieu encore plus. Parce que il me tape sur les nerfs plus que n'importe qui, lui. Je l'aime pas, le diable. On aime tout le monde sauf le diable. Lui, il nous tape ses nerfs. C'est lui qui nous rend malade. C'est lui qui fait toutes sortes de choses. Mais gloire à Dieu, quand je loue mon Seigneur, oh, le Seigneur, il est dispatché, il vient nous visiter, il envoie une compagnie angélique, la place est remplie de son onction, les chaînes sont brisées, les gens sont libérés. Gloire à Dieu. Alléluia. Merveilleux. C'est merveilleux ce que le Seigneur peut faire lorsque l'onction de Dieu est dans une place. Mais l'onction, là, elle est toujours disponible. Dieu veut toujours nous rencontrer. Dieu veut toujours nous visiter. Donc, c'est toujours à nous de se décider, est-ce que je me laisse influencer par les émotions, les sentiments, ou est-ce que je vais être un soldat dans l'armée du Seigneur et je vais louer Dieu, bon temps, mauvais temps, bon jour, mauvais jour, peu importe. Et imaginez si chaque personne, un dimanche matin, pendant qu'on loue le Seigneur, que vous sentez bien ou non, là, vous commencez à remercier le Seigneur. Vous le louez pour qui il est, pour ce qu'il a fait dans vos vies. Des fois, vous dites, ben là, j'ai de la misère à voir pour mon avenir. Ben, remerciez-le pour le passé. Oh, ben Seigneur, j'étais pris dans la drogue. J'étais pris dans l'alcool, Seigneur Dieu. Oh, mais tu m'as libéré. J'étais esclave avant, mais Seigneur, tu m'as libéré. Et là, tout d'un coup, vous commencez à être encouragé. Oui. La joie du Seigneur est votre force. La joie du Seigneur est votre puissance. Et là, tout d'un coup, même si votre vie va pas bien en ce moment-là, la présence surnaturelle, l'onction de Dieu vient sur vous, vient vous recouvrir. Et là, vous êtes dans la joie tout d'un coup. Oh, la joie de l'Éternel est votre force. C'est merveilleux. Là, je veux vous lire le texte concernant Satan et la louange. Dans le psaume, chapitre 8, verset 2 ou 3, dépendamment des versions. Mais dans le psaume, chapitre 8, verset 2, il est écrit, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Hein, on vient de faire ça ce matin, on a dit, « Majesté, majesté. » On l'a loué. Maintenant, verset 2 ou 3, « Par la bouche, dites bouche, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, en parlant des rachetés. » Ça, c'est vous, ça. « Tu as fondé ta gloire pour confondre » écoutez bien la traduction que j'ai trouvée dans Strong, opprimer tes adversaires. Ah ben là, c'est un contre-coup. Il voulait venir m'opprimer, c'est à mon tour de l'opprimer. Regardez bien ça. Pour confondre tes adversaires, c'est qui notre adversaire? C'est Satan et ses démons. Écoutez bien, tes adversaires. pour imposer le silence, ou pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Imposer le silence. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous louez le Seigneur, l'ennemi vient vous souffler des affaires. Mais là, hallelujah, gloire à Dieu! Merci Jésus! Là, vous commencez à louer ça. Et là, l'ennemi, il veut vous parler, mais vous êtes toujours en train de l'interrompre. Hallelujah! Merci Seigneur Dieu pour le réveil. Merci pour l'effusion de ton Saint-Esprit sur moi. Gloire à Dieu, hallelujah! Vous êtes en train de fermer la bouche. Pour imposer silence à l'ennemi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, je t'écouterai plus, je te donne même pas de droit de parole dans ma vie. Amen. OK, Bible du Sommeur maintenant. Ça dit, de la bouche des enfants et des cris des nouveaux-nés. Il y en a qui peuvent dire, moi je suis un nouveau chrétien. Mais savez-vous, c'est de votre bouche que ça va se passer. Tu fais jaillir, jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Oh ben, encore une fois, on voit ici, le silence est imposé. Et là, dans Parole de vie, ça dit, par la bouche des enfants, des tout-petits, tu affirmes ta puissance devant tes ennemis. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Sans cesse luttent contre vous. Si vous dites, pasteur, prie que je vive plus d'oppression, je ne peux pas faire ça. Vous allez mourir. C'est juste rendu au ciel qu'on n'aura plus de problèmes. On va en avoir des problèmes. Mais on a l'autorité de faire taire l'ennemi et de faire quitter ces oppressions-là. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Je suis content que vous avez demandé la question. Comment? En louant notre Dieu. Et ce matin, on va continuer à le louer. J'ai quasiment fini par la grâce de Dieu. Là, vous dites, il y en a, moi, je ne suis pas habitué de louer Dieu. Moi, je viens d'un arrière-plan où la louange est assez conservateur. Je veux vous informer d'une chose. Au ciel, ça se passe comme ceci. OK? Je veux vous parler un petit peu des choses dans la culture céleste, si on veut. Dans le psaume 47, verset 2, ça dit, « Vous, tout peuple, battez des mains. » Est-ce qu'on peut battre des mains en ce moment? Et là, on va battre des mains pour le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Hey, c'est facile? Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 47, verset 2, c'est ça, « Battez des mains. » Hey, vous venez de louer le Seigneur. Est-ce que c'était dur et difficile?
Non.
C'était pas dur, ça? Je suis habitué, je fais ça aux Canadiens de Montréal. Mais là, faites-le pour Jésus, dans votre maison. Si des fois vous êtes dans votre maison, puis vous savez même pas comment faire, là, puis vous savez pas quoi dire, bien, priez en langue, ou si vous n'avez pas encore été rempli du Saint-Esprit, faites ceci. Dans votre maison, là, vous écrasez tous les démons. OK? Psaume 134, verset 2. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Élevez les mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Ça, c'est une autre façon de louer Dieu. Il y a toutes sortes de façons où on peut exprimer notre amour vers notre Seigneur. On élève les mains. Ensuite, psaume 149, verset 1, ça dit, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Ça veut pas dire acheter un nouveau CD puis il faut que ça soit une nouvelle toune. Hein? Ça peut être ça. Mais chanter à l'Éternel un chant nouveau, ça nous parle, c'est un chant spontané dans l'esprit. Vous louez le Seigneur, peut-être que vous êtes à Tefila, et là, vous commencez à chanter un chant que vous n'avez jamais entendu, et qui, ce chant-là, il déborde de votre sein, comme on voit dans les Écritures, et là, vous commencez à chanter un chant d'amour au Seigneur. C'est juste un chant spontané, un chant nouveau. Amen. Ensuite, ça dit qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se réjouisse? Ça veut dire se décide. Réjouis-toi. Savez-vous, dans les pays, des fois, où ils vivent des difficultés, moi, je suis allé en Haïti, là, c'était pendant l'embargo, les gens étaient dans une pauvreté profonde, mais les gens louaient le Seigneur, les gens célébraient leur Dieu, ça allait super mal, mais ils se réjouissaient. Ils se réjouissaient, ils ont pris la décision, je vais me réjouir. Amen. C'est une décision que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. On sert le roi des rois, moi, je suis dans la joie. Mais t'as aucune raison d'être dans la joie. Regarde ta situation. Je suis dans la joie. Hallelujah! C'est vrai. C'est une décision. Car, OK, verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Ça veut dire, on va avoir des instruments. Et savez-vous, on peut même danser dans l'esprit. Dans la présence de Dieu. Hallelujah! C'est biblique. Gloire à Dieu. Verset 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Moi, là, je trouve ça important d'arrêter. Je sais, je dépasse un petit peu mon temps, mais vu que vous êtes tellement délivrés et dans l'onction de Dieu, là, ça vous dérange même pas. Écoutez bien. L'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Regardez bien ce que ça dit. Là, jusqu'à date, on a vu comment louer Dieu. Là, en plus, au verset 4, ça dit, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Quand on fait ça, quand on le loue, ça fait plaisir à Dieu. Pourquoi? Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais quand on loue le Seigneur, puis on se réjouit dans notre salut en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Dieu reconnaît notre foi. Là, ça dit, et Dieu prend plaisir à son peuple. Imaginez quand Dieu prend plaisir à son peuple, comme on le loue. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, Dieu visite, puis il est content d'être là en plus. Verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire. La gloire, ici, on parle. Oh, j'ai hâte de vous prêcher là-dessus, mais je ne prêcherai pas tout de suite, là. Mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Vous savez qu'Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu, et ils ont été habités par cette lumière glorieuse. Je prendrai pas plus de temps là-dessus, là. Mais que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Et je veux vous faire remarquer le mot triomphe. Dans 1 Jean 5,4, ça dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre percée, là, elle se passe dans la louange. Comme on loue le Seigneur, on triomphe dans la foi. Amen. C'est, Dieu, il dit ici, là, que les fidèles triomphent dans la gloire. C'est ça que Dieu veut pour nous. Je termine. Bientôt. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Dites bouche. Ben moi, je loue le Seigneur dans mon cœur. Relisez la Bible. Verset 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Dites bouche. Bouche. Avez-vous une bouche?
Oui.
Gloire à Dieu. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Bible du Sommeur, ça dit, et qu'ils exaltent à pleine voix, qu'ils tiennent aussi dans leurs mains l'épée à deux tranchants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La parole de Dieu, ça veut dire non seulement est-ce qu'on va taper des mains, lever les mains, danser, louer le Seigneur avec nos chants, tout ça, avec la musique, mais en même temps, on va décréter la parole de Dieu. Ça veut dire on se met à l'œuvre et Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est écrit dans la parole, je ne manquerai de rien, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. OK. Verset 6. Bon, je viens de le lire. Gloire à Dieu. Donc, on vient de revoir. En battant nos mains, c'est une façon qu'on peut louer le Seigneur. En élevant nos mains, en chantant, par la réjouissance, en prenant la décision, par la danse, par la musique, avec ses cris de joie, par une louange à pleine voix, avec des décrets. Vous avez un bon menu. Comment vous pouvez louer Dieu? Vous avez un menu. Avez-vous réalisé ça? Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une forme de quelqu'un d'autre, là. Vous êtes vous-même. Louez le Seigneur et exprimez votre cœur comme vous êtes. Amen. Mais pas dans votre chair, comme vous êtes en Christ. OK? Je dois préciser. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, je suis comme ça. Non, c'est le temps de changer, frères et sœurs. C'est le temps de changer. Gloire à Dieu. Dites, c'est le temps de changer. Je change. C'est ça qui se passe en ce moment. Là, il y a plein de gens qui sont en train d'être transformés, qui changent. Ça, oui, on est en train de le vivre. La gloire, on est en train de le vivre. Premièrement, ça commence en nous. On est en train de changer. OK. Là, je termine. Dans Matthieu 11, verset 12, ce sont les violents qui s'en emparent, en parlant du royaume de Dieu. Ce sont les violents en esprit qui s'emparent du royaume de Dieu. On va voir le royaume de Dieu se manifester parmi nous. Et même un matin, je m'attends de voir des choses. Dimanche prochain, je m'attends de voir des choses. Dimanche après-midi, je m'attends de voir des choses. Vous savez, en Afrique, ils passent des 8 heures à danser, à louer le Seigneur, à chanter, à célébrer. Une personne vient de mourir, on va ressusciter d'entre les morts. Pas de problème. Puis nous, on dit, ah, comment ça se passe toujours en Afrique? Louons le Seigneur. Ben moi, je suis conservateur, c'est pas moi ça. Ben change au nom de Jésus. Change. Deviens ce que la Bible dit. Deviens ce que la Bible dit. Je suis inconfortable. Heureusement, faut que tu changes. Amen. Amen. Moi, j'ai été obligé de changer, savez-vous ça? Mais je suis comme ça. C'est ça le problème. Regarde comment ça va dans ta vie. Faut changer. Dieu, là, j'ai dit, Seigneur, change-moi. Moi, là, j'avais 12 ans, là. Le Seigneur de Dieu est le Seigneur de Dieu. Le Seigneur Dieu est venu sur moi, puis il m'a changé, même à ce moment-là. À 12 ans, ben, j'étais un petit peu, mais je dirais pas le même, mais j'étais figé. Mais le Seigneur m'a dégelé. Amen. Il peut vous dégeler. Amen. En terminant, j'invite l'équipe de la louange. On va louer le Seigneur ce matin. Là, il n'y a plus aucune excuse. Si quelqu'un dit, mais moi, je suis pas capable de dire gloire à Dieu, là, on va faire quelque chose maintenant. Je veux vous inviter à répéter après moi. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, je te remercie. Je te remercie parce que mes frères et mes sœurs ont entendu cette parole. C'est une parole de libération. Seigneur Dieu, je te glorifie parce que tu es grand et tout puissant. Et aujourd'hui, maintenant, nous disons, nous proclamons que dans cette maison, chaque personne est affranchie. Chaque personne est libre pour louer. Il n'y a personne qui passe à côté. Il n'y en a pas. On est tous les 120 dans cette maison. Nous faisons partie de ceux qui reçoivent de Dieu tout ce qu'ils ont besoin. On reçoit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut maintenant louer le Seigneur et entrer dans ses parvis avec des louanges? Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous bénir, vous relâcher, après ouvrir l'autel pour ceux qui ont besoin de prière. S'il y en a ici, vous avez besoin de vraiment recevoir de cette onction. Peu importe si peut-être vous n'avez pas reçu l'onction de la nouvelle naissance, vous n'avez jamais encore donné votre vie au Seigneur Jésus, c'est la journée pour le faire. Il est présent ici par son Saint-Esprit. Il veut venir vous habiter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à l'équipe pastorale, toute l'équipe pastorale, sauf ceux sur l'estrade, de venir en avant, ceux qui sont disponibles, venir en avant l'équipe pastorale. Et puis, premièrement, si vous avez besoin de donner votre vie au Seigneur Jésus, on veut le faire ce matin. Si vous n'avez jamais encore été rempli du Saint-Esprit, selon Actes 2, 4, avec l'évidence de parler en langue, avec ce langage spirituel que Dieu vous donne, on veut vous donner l'opportunité. Venez en avant et dire, moi, je veux recevoir ce langage spirituel pour prier et m'édifier moi-même, me bâtir dans l'homme intérieur. Si vous avez besoin d'un miracle physique, une guérison surnaturelle, l'équipe pastorale va prier pour vous et relâcher votre foi, leur foi pour vous. Alors, je veux vous inviter ce matin à vous déplacer. Si vous n'avez pas de besoin, bien, je vais prier pour vous. Et maintenant, Seigneur Dieu, je veux prier pour l'Assemblée en général. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait parmi nous et ce que tu continues à faire dans la vie de chaque personne. Et Seigneur, aussi, je veux prier maintenant pour ceux qui ont besoin de cette touche spéciale, spécifiquement, comme j'ai demandé ce matin. Je prie, Seigneur, et je veux m'unir avec tous les pasteurs aujourd'hui pour les miracles, pour les visitations de ton Saint-Esprit dans la vie de ces gens. Je prie au nom de Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. Et tous ceux qui ont besoin de prière, l'autel est ouvert ici.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.